Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Notre planète étouffe sous les détritus. Au large de la Corse, l'Ifremer a retrouvé en pleine mer une île de déchets. Les tortues meurent étouffées par les sacs plastiques. Il faut agir, il y a urgence. Jonathan Conan l'a fait en proposant, et c'est un premier pas, et quel pas, des boîtes en verre consignées aux traiteurs et restaurateurs. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre pour Le Goût d'entreprendre. Vous êtes le fondateur d'Éthique Emballage. Alors, vous proposez, pour faire simple, une nouvelle version du Doggy Bag.
Tout à fait.
C'est un peu ça.
Tout à fait. Alors, en fait, on est 7 cofondateurs et cofondatrices donc, de cette association Éthique Emballage. Et donc, oui, nous, ce qu'on veut proposer via le projet donc, Emboîte le plat, ce sont des boîtes en verre consignées du coup, qui pourront remplacer les emballages jetables utilisés pour la vente à emporter et également qui pourront servir de doggy bag pour remporter la fin de son assiette chez soi. Éventuellement.
Quand on est au restaurant.
Voilà, tout à fait, c'est ça. C'est remplacer toutes les barquettes jetables qui sont utilisées au sein d'un restaurant.
Alors les barquettes jetables, on les utilise également chez le traiteur.
Chez le traiteur, au niveau des métiers de bouche, par exemple dans les marchés, pour emporter de la charcuterie, des olives, etc. Toutes les barquettes en plastique ou en carton jetable que vous pouvez utiliser chez des professionnels des métiers de bouche en général, nous on veut les remplacer par des boîtes en verre consignées sur la métropole toulousaine.
Alors comment ça marche concrètement? C'est-à-dire qu'on vient avec son emballage personnel ou bien au départ vous vendez des boîtes en verre?
Alors, vous n'avez pas besoin de venir avec votre emballage personnel. L'idée, c'est de faciliter la chose pour tout le monde.
Ouais.
Donc, alors nous, en fait, l'association, on approvisionne nos partenaires, les membres du réseau, en boîtes en verre propres directement au sein de leur restaurant ou de leur commerce. Donc, ils disposent de ces boîtes en verre. Les clients qui souhaitent être servis dans une boîte en verre ont juste à donner une consigne de quelques euros contre laquelle donc ils vont être servis dans cette boîte en verre. Et après utilisation, donc le jour même ou deux jours après ou la semaine suivante, ils peuvent ramener la boîte en verre chez le commerçant. Ils récupèrent leur consigne et nous, en fait, on vient collecter les boîtes en verre usagées chez les commerçants.
Ouais.
On assure le lavage et on redistribue les boîtes en verre ensuite. Et voilà, le cycle continue indéfiniment.
Alors, vous avez lancé cette initiative il y a combien de temps ?
Alors, le projet a mûri depuis plus d'une année. Disons que là, nous avons commencé il y a 3 mois par une campagne de financement participatif pour financer une phase d'expérimentation. Donc, nous avons récolté plus de 15 000 euros durant cette campagne, alors que nous visions 7 500 euros.
D'accord.
Donc, je pense que ça
veut
démontre
dire qu'il y a une
bien
attente, ouais.
Voilà, la vraie attente des citoyens et des citoyennes. Nous avons donc démarré la phase expérimentale il y a un mois maintenant, jour pour jour, donc à Toulouse, avec pour commencer 5 restaurants partenaires en centre-ville. Et là, nous allons donc entamer le deuxième mois de cette phase expérimentale qui va durer 3 mois. Et nous allons ajouter 5 nouveaux restaurants pour monter donc à 10 restaurants partenaires sur les 2 derniers mois. Donc voilà. Donc chez ces restaurants partenaires que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.boiteleplat.fr. Donc là vous avez la carte avec les différents partenaires du réseau. Donc là vous pouvez aller vous commander un plat à emporter qui sera servi si vous le voulez dans une boîte en verre consignée.
Et que vous ramènerez.
Et vous pouvez ensuite ramener la boîte en verre chez n'importe quel restaurant partenaire du réseau. C'est ça l'idée, en fait.
Alors, ça veut dire qu'il y a vraiment une attente également de la part des professionnels. Quel a été l'accueil, justement,
alors,
de ces professionnels?
C'est vrai qu'il y a une attente de la part des professionnels. Et ça a été on pensait bien qu'il y avait une attente, mais à ce point-là, en fait, ça a été une très bonne surprise.
Ouais.
On a réalisé une étude de marché en fin d'année 2018. Et auprès de 50 restaurateurs, on s'est rendu compte que plus des 3/4, en fait, avaient un très bon retour vis-à-vis de l'idée qu'on leur proposait. Donc ça nous a beaucoup encouragé. Et là, du coup, depuis le début de la phase expérimentale, on se rend compte que ça se passe très bien au niveau de notre relation avec les restaurateurs et les restauratrices et que voilà, ils sont très satisfaits du début d'expérimentation, en tout cas. Donc on espère que ça va continuer comme ça. On a beaucoup d'appels aussi de restaurateurs et restauratrices toulousains qui souhaitent qu'on vienne chez eux leur proposer ces boîtes en verre. Donc voilà, c'est sur ce plan-là, c'est très positif.
Ça a un coût pour le professionnel ?
Ça a un coût, tout à fait. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les professionnels des métiers de bouche comme ça, ils vous proposent des emballages jetables, ils doivent les payer. Donc nous, on a estimé que ça se situe entre 30 et 50 centimes unité. Donc à chaque fois que vous prenez un plat à emporter dans une boîte avec un couvercle jetable, dans le prix que vous payez, il y a ce petit
centimes.
Prix voilà, d'emballage.
Et pour aller à la poubelle.
Exactement, c'est un emballage qui a mis plusieurs mois à être fabriqué, ouais, etc. Ouais. Et qui est venu en avion ou en camion. Et au final, on va l'utiliser une demi-heure et on va le jeter. Donc ouais. En fait, c'est de l'argent un peu gaspillé qui en plus sort complètement du territoire. Et on ne sait pas à qui vraiment on donne notre argent. Et nous, ce qu'on propose du coup, c'est tout simplement de conserver cette économie sur le territoire de la métropole toulousaine. Donc là, les 30 ou 50 centimes, les restaurateurs, nous, on leur facture ce prix pour participer au réseau à chaque fois qu'une boîte en verre est commandée. Et donc, quand vous commandez dans une boîte en verre consignée, en fait, vous participez indirectement au bon fonctionnement d'Emboîte le plat. Et le restaurateur ou la restauratrice également, bien entendu. Donc en fait, ils payent le même prix.
Oui, pour eux, ça ne leur coûte pas plus cher.
Voilà, c'est ça l'idée.
Ouais. Comment vous est venue cette idée, Jonathan, en fait ? Puisque au départ, vous avez une trentaine d'années, hein, si je ne dis pas de bêtises, et vous étiez ingénieur aéronautique.
Voilà, donc j'ai une formation d'ingénieur généraliste. J'ai travaillé dans l'aéronautique, comme beaucoup de monde à Toulouse. Et donc voilà, sur le plan technique, ça m'a beaucoup plu, mais au niveau de l'environnement économique, j'ai été un peu déçu, en fait, parce que j'ai trouvé. Ce rapport permanent à l'argent m'a un peu dérangé et je trouvais pas une finalité qui m'intéressait. Et donc, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, je pense que je suis sensible aux questions environnementales, bien entendu. Et le midi, il m'arrivait souvent de manger dans des food trucks ou de prendre à emporter, justement, parce que voilà, on est en sous-traitance, on n'a pas de restaurant d'entreprise. On est jeune, on prend pas le temps de cuisiner, ça c'est clair. Et donc, on voit les poubelles qui se remplissent avec des emballages jetables, indéfiniment. Et donc, ces deux choses combinées, c'est-à-dire mon envie d'entreprendre différemment et puis cette conscience de l'urgence environnementale qui grandissait en moi, ont fait que j'ai réfléchi à réintroduire la consigne, en fait. C'est aussi en discutant avec mes grands-parents, les personnes de ma famille qui avaient connu un peu ce système qui existait il y a quelques dizaines d'années, que ça m'est apparu comme une solution très naturelle, en fait.
Et vous avez raison, parce qu'en fait, c'est un grand mouvement qui est en train de naître, en France en tout cas, ou de renaître avec les consignes, les bouteilles consignées. On voit émerger quelques initiatives en France.
Alors, c'est tout à fait vrai. Nous, on fait partie du réseau consignes qui a vu le jour il y a quelques années, qui est porté par Zero Waste France notamment, et qui regroupe toutes les initiatives autour de la consigne sur le territoire français. Donc, il y a beaucoup de choses autour de la réintégration de filières de bouteilles en verre consignées. Donc dans chaque région, il y a des projets qui sont en train de se développer. À Toulouse, il y a le projet qui s'appelle ConsignUp, qui est en train d'expérimenter en même temps que nous. Et il y a également d'autres projets, donc un peu comme le nôtre, qui sont plutôt liés aux emballages alimentaires, qui sont en train d'émerger dans les grandes villes. Donc c'est très très intéressant, c'est très stimulant pour nous tous, parce qu'on voit qu'on fait partie d'un collectif national. Et ça nous pousse, on va dire, à continuer dans cette voie-là, on va dire.
Oui, vous vous inscrivez dans un mouvement, effectivement, qui émerge, qui fonctionne, qui commence à fonctionner.
Voilà, je crois que ça démontre encore une fois bien la tendance, le fait que c'est une demande d'actualité qui... Je pense qu'on est dans le bon timing, en fait. C'était quelque chose qui était peut-être compliqué à mettre en place il y a quelques années et qui, aujourd'hui, s'inscrit clairement dans une demande de toutes les parties prenantes.
Voilà, dans la demande notre demande de consommateurs.
Je crois, ouais.
Pourquoi on a abandonné les consignes, en fait ?
Alors, à cause du plastique. À cause du plastique. Bon, le plastique est une matière, un matériau très pratique et a été une révolution, je pense, dans les années de son apparition. Et malheureusement, on se rend compte aujourd'hui qu'il a beaucoup, beaucoup de défauts. Et donc, on a habitué la société à vivre avec le plastique et avec le jetable. Et donc aujourd'hui, je pense que l'enjeu, c'est pas de faire marche arrière, mais c'est de continuer, de réévoluer en réapprenant à vivre de manière plus cyclique, en évitant de produire du déchet. Du coup, forcément, en sortant du plastique qui n'est pas durable.
Et le plastique, ce n'est pas si fantastique. Jonathan, vous avez lancé votre entreprise de quelle façon ? Alors, vous étiez accompagné.
Tout à fait. Alors, j'ai réfléchi dans mon coin pendant quelques mois en début d'année 2018.
Tout seul.
Tout seul. Et ensuite, donc j'ai intégré le parcours Adresse à Toulouse Métropole. Donc, c'est un parcours d'accompagnement de projets dans le champ de l'économie sociale et solidaire. On peut considérer ça comme un incubateur, tout à fait. Mais c'est un peu plus fort que ça parce qu'en fait, ça met en réseau une quarantaine d'acteurs de la métropole toulousaine qui sont liés à l'économie sociale et solidaire. Ouais. Et du coup, on a accès d'un coup, en intégrant ce parcours, ces 40 experts qui sont experts sur différents domaines de l'ESS. Donc, on a des experts de la communication, du montage de projets, du modèle économique, de divers, enfin il y a vraiment plein d'acteurs différents et donc c'est très très riche et voilà, donc là je l'ai intégré en juillet ce parcours et très vite ensuite j'ai donc rencontré mes 6 cofondateurs et cofondatrices avec qui du coup depuis maintenant quasiment 8-9 mois là on travaille sur le projet en partenariat avec le parcours Adresse et voilà, ça se développe plutôt bien.
C'est important d'être bien accompagné.
C'est très important d'être bien accompagné, ça c'est le premier conseil je pense qu'on peut donner à quelqu'un qui veut vraiment se lancer, c'est crucial.
Vous vous êtes associé également avec Élémentaire pour le lavage des boîtes. Élémentaire, c'est une association ?
Alors Élémentaire, c'est une association toulousaine, occitane, qui propose des gobelets consignés pour les festivals, les associations, les particuliers.
Ouais.
Et donc qui se situe à Toulouse et qui possède un centre de lavage avec voilà, une plonge, une machine professionnelle et un espace de séchage également. Moi, je suis bénévole chez Élémentaire depuis un peu avant le début du projet, hein, depuis maintenant un an et demi presque. Mmh, mmh. Donc, le projet a un peu mûri aussi en même temps que ce bénévolat. Donc, voilà, c'est vraiment un bénévolat qui m'a beaucoup apporté. J'encourage d'ailleurs tout le monde à chercher un peu des bénévolats comme ça pour donner un peu de sens. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui cherchent du sens un peu dans leur métier aujourd'hui. Enfin, moi, dans le monde de l'aéro, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et voilà, oui, c'est donc chez eux qu'on lave nos boîtes pendant l'expérimentation.
D'accord, donc ils sont équipés d'une machine particulière. Alors, c'était un investissement pour eux.
C'est une écolaverie, voilà, dans laquelle ils ont investi l'année dernière, donc un fort investissement. Donc nous, en fait, on vient mutualiser cette écolaverie, ce qui permet de rentabiliser leur investissement, nous d'éviter un investissement inutile, et puis d'éviter la fabrication d'une machine alors qu'on peut utiliser une machine qui est déjà présente sur le territoire toulousain. Donc il y a plein d'aspects positifs au fait de travailler avec eux. Et en plus, je pense qu'on tire un peu, on se tire un peu les deux vers le haut, vu que voilà, on parle. C'est un peu le réseau qui s'étend à chaque fois qu'on tisse un nouveau partenariat, comme celui avec Élémentaire. Donc voilà, c'est très, très positif.
C'est une façon de créer de l'emploi ?
Oui, alors par exemple, Élémentaire, eux, ils embauchent une personne en insertion pour venir laver chez eux une à deux journées par semaine. Et nous, du coup, voilà, on vient leur amener un peu de volume supplémentaire. Bon, notre volume pour l'instant est vraiment négligeable par rapport à ce que eux peuvent laver au niveau des gobelets. Mais voilà, nous, dans l'idée, c'est sûr que si notre projet peut vraiment se diffuser sur la métropole, on espère qu'on pourra aussi contribuer à l'inclusion sociale comme ça, en embauchant des personnes en insertion sur les parties lavage, les parties logistiques.
Ouais, ouais. Donc la boucle sera bouclée. On en reparle dans un instant de tous ces aspects économiques.
Plaisir.
Restez avec nous, à tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et merci d'être avec nous sur Radio Présence pour Le goût d'entreprendre, deuxième partie de cette émission. Jonathan Conan est notre invité, c'est le fondateur d'Éthique Emballage. Bonjour Denis Abril.
Bonjour Doris.
Quand on parle d'éthique, évidemment, ça fait écho chez vous, un de nos référents. Éthique pour cette émission consacrée aux créateurs d'entreprises. Denis, peut-être une première question à notre invité.
Oui, tout d'abord, bravo pour cette initiative. Je crois qu'elle va tout à fait dans le sens de la recherche d'une vie un peu mieux, notamment pour le futur. Parce que les déchets, c'est chose qu'on, c'est un peu comme la dette, hein, chose qu'on accumule pour l'avenir. Hein. Alors, je me pose quand même une question. Ma question peut être un peu difficile parce que c'est pas toujours facile à appréhender, mais quel est le bilan général de l'opération quand on fait ça? C'est-à-dire, bon, le plastique, on connaît tous les inconvénients du plastique, à la fois de sa fabrication, de son transport, et puis après, surtout de son élimination, qui ne se fait pas d'ailleurs, ou qui se fait mal. Mais dans tout un autre système, faut aussi se poser la question, est-ce que le bilan est vraiment bon? Alors, j'en doute pas trop, c'est pas ça le problème, mais est-ce que ça a été calculé? Parce que le verre, il faut le fabriquer, il faut le transporter, et il pèse lourd, et puis il faut le laver, etc., etc., quoi.
Oui, alors, bien entendu, c'est une question qui est au cœur un peu de tous les projets d'économie circulaire. Il faut toujours être sûr que son impact est positif au final. Alors, avoir réalisé une analyse de cycle de vie globale, c'est pas encore possible parce que ça coûte très cher, mais c'est sûr que c'est quelque chose vers lequel on va aller dès qu'on pourra. Vous venez de le dire, déjà, il y a une chose qu'on est sûr, c'est que le plastique ne se désagrège pas complètement et finit toujours dans l'environnement, au contraire du verre qui, du coup, est un matériau plus naturel. Donc déjà, ça, on sait qu'en mettant du verre sur le marché à la place du plastique, on évite une pollution. Ensuite, ce qu'on cherche à travers le projet, je ne vais pas rentrer dans la comparaison verre-plastique parce que bon, voilà, nous, on est persuadés que l'impact est meilleur au niveau du verre qui est réutilisé plutôt que du plastique, parce que le plastique consomme également énormément d'eau au niveau de la production. On ne sait pas d'où il vient, donc il peut venir de l'autre côté de la planète. Là, en l'occurrence, on travaille avec des boîtes en verre qui sont fabriquées par Duralex. Voilà, des boîtes qui sont vendues 100% made in France par Duralex, hein, qui sont installées à Orléans. Au-delà de ça, nous, ce qu'on vise avec le projet, c'est aussi amorcer un changement des modes de consommation chez les habitants. Donc au-delà de l'impact brut au niveau du produit, de la boîte en verre ou en plastique, ce qui nous paraît important et ce que nous on vise, c'est de proposer un questionnement. C'est-à-dire qu'au moment de la commande chez le restaurant ou au niveau du commerce, le citoyen ou la citoyenne va se poser la question: est-ce que je continue à prendre ma boîte jetable ou est-ce que je prends une boîte consignée? Est-ce que je continue à faire un déchet ou est-ce que, au contraire, je change et j'arrête de faire des déchets? Et là, à mon avis, on a un impact qui sera jamais chiffrable vraiment, mais qui est vraiment primordial, on va dire.
Est-ce que vous pensez que nous sommes prêts à ça dans notre culture française?
Ben écoutez, moi j'en suis persuadé. L'objet de notre expérimentation, l'un des objets majeurs de notre expérimentation de 3 mois, c'est un peu de commencer à sentir si vraiment les gens sont prêts.
Ouais.
Pour le moment, autant vous dire que c'est très encourageant. C'est, voilà, y a certains restaurants dans lesquels plus de 50% des commandes sont faites déjà avec des boîtes en verre. Alors qu'on vient de commencer, on n'a pas mis en place de communication particulière. Donc voilà, c'est vraiment l'un des enjeux majeurs du projet, c'est ça. Est-ce qu'on va réussir à amorcer un changement des modes de consommation? On se concentre pas juste sur mettre en service des boîtes en verre.
Il faut qu'il y ait un mouvement national aussi, il faut qu'il y ait un accompagnement.
Tout à fait.
Une grande communication au niveau national.
Tout à fait, c'est important.
Vous vous sentez donc un évangélisateur aussi en même temps. C'est-à-dire qu'il faut faire prendre conscience aux gens de ça, parce que bon, quand tout se passe habituellement, on fait comme on l'a toujours fait et on ne se pose pas de questions. Mais lorsqu'un acteur vient et vous dit « mais non, il y a d'autres solutions », là on se pose des questions. Est-ce que c'est aussi ça que vous recherchez?
Nous, ce qu'on veut, on veut se positionner en tant que, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais on veut réveiller un peu certaines consciences. Enfin, personnellement, moi je sais que j'étais dans cette position il y a encore pas très longtemps, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, je consommais beaucoup de produits jetables et voilà, aujourd'hui j'essaye de faire au mieux, il y a encore des produits sur lesquels je pourrais faire mieux, bien entendu. Et l'idée, c'est plutôt de, je pense qu'il y a un moment donné où il faut vraiment proposer une action simple, qui soit pas compliquée à mettre en place, mais qui soit une action pour que la personne puisse se dire: je l'ai réalisé, donc je suis capable de faire ça. Je suis capable de prendre la boîte en verre plutôt que la boîte jetable, donc je peux faire autre chose, je peux aller plus loin dans mon quotidien. Donc on veut se positionner comme déclic, on va dire, on peut appeler ça comme ça.
Petit déclic, oui. 40% des bouteilles plastiques ne sont pas recyclées en France.
Alors ça, c'est encore... Ça c'est un problème. Enfin, nous, on essaie de s'y attaquer, mais de la bonne manière. En fait, voilà, on a appris à recycler. Enfin, moi, depuis que je suis petit, on m'a appris à recycler, à trier les déchets. C'est très bien de recycler. Et en plus, il y a une grande partie des déchets en plastique qui ne sont pas recyclés. Mais même ceux qui sont recyclés, il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même des... Donc, tout ce qui est en plastique va être recyclé 1, 2, 3 fois maximum et terminera dans l'environnement au final. Et ça consomme à chaque fois de l'énergie de recycler un déchet. Donc, en fait, il faut mieux pas produire le déchet. On évite un gaspillage d'énergie, plutôt que de bien trier en permanence. Enfin, voilà, c'est un début de bien trier. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à un moment où c'est important d'essayer de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire réduire sa production de déchets.
Denis.
Donc, vous avez une formation d'ingénieur, vous avez exercé. En quoi cette formation, cette expérience vous a aidé pour monter le projet, d'abord pour bien le comprendre, hein, quand on parle effectivement d'énergie, etc., et notamment de bilan? Est-ce que ça vous a vraiment aidé ou est-ce que finalement vous avez tourné la page et vous vous lancez sur autre chose, quoi?
Ah non, bien sûr, ça m'a vraiment aidé. Voilà, je pense que c'est une formation qui m'a fait acquérir une méthodologie, une façon de penser, une façon de découper les problématiques, de prioriser aussi les choses à travailler. Mmh. Donc voilà, je pense que c'est sûr que dans mon quotidien là, de création d'entreprise, j'utilise énormément de choses. C'est peut-être pas des compétences sur lesquelles on peut mettre des mots, mais en tout cas, mes 5 ans de formation et aussi mon expérience dans l'aéronautique m'ont apporté voilà, une certaine manière de réfléchir que je mets à l'épreuve tous les jours aujourd'hui. Et avec les 6 autres personnes qui travaillent avec moi sur le projet, on a tous des profils différents qui viennent s'imbriquer les uns les autres et qui viennent se compléter sur le montage de ce projet, alors qu'auparavant, on n'a pas d'expérience dans la création d'entreprise.
Et notamment sur un projet, il y a toute la compétence qu'on acquiert en gestion de projet quand on fait de la technique qui doit aider énormément, même si la matière n'est pas la même, l'organisation, oui. Alors, en parlant de projet, je m'interroge aussi un peu sur le business model et sur un peu l'avenir. Donc vous êtes 7, mais ce sont 7 qui sont là tous. Ils travaillent tous, ils sont bénévoles, ils sont salariés. Quelle est l'équation économique là? Parce qu'à 30 centimes là, la boîte, ça doit être dur.
Hein. Il va falloir beaucoup de boîtes.
Comment vous gagnez de l'argent en fait? Faut faire simple.
Oui, voilà.
Alors, il n'aime pas parler d'argent.
En fait, donc là on est 7 personnes, mais voilà, il faut comprendre qu'on est sur un projet donc, pour l'instant associatif. Certaines de ces 7 personnes sont purement intéressées par l'émergence du projet en fait. D'autres aimeraient aussi créer leur activité. Et du coup, voilà, c'est... Pour l'instant, on est 7 bénévoles, donc c'est simple.
Ah, d'accord, il faut manger quand même. Hein.
Voilà, tout à fait. Donc, en fait,
même dans des boîtes en verre, il faut manger, il faut payer.
On a donc l'ambition de créer 3 à 4 équivalents temps plein d'ici 2022 sur l'activité d'Emboîte le Plat. C'est le premier projet de l'association, hein, encore une fois. Donc, nous, on a vocation à aller sur d'autres types d'emballages que les emballages alimentaires. Pour le moment, ce n'est pas l'actualité du tout, on est sur ce projet uniquement. Mais en fait, voilà, avec les 30 centimes, il faut comprendre qu'on dégage une certaine marge quand même, parce qu'au final, voilà, le lavage coûte un certain montant, mais pas 30 centimes par boîte. Et donc, arriver à un certain volume de boîtes utilisées tous les jours sur la métropole toulousaine, on peut du coup dégager assez d'argent pour payer 1, 2, 3 salaires. Voilà, tout l'enjeu, c'est de savoir si le volume de boîtes nécessaire pour payer un salaire peut être géré par une personne. Ça, c'est ce qu'on est en train de mesurer sur l'expérimentation également. Et juste pour finir là-dessus, voilà, donc nous, l'ambition, c'est d'avoir un modèle collectif. C'est-à-dire qu'on ne veut pas répercuter tout l'effort économique sur les professionnels de la restauration. Mmh. On considère qu'aujourd'hui, ils font leur part en achetant ces emballages déjà. Donc, on reste sur le même tarif pour eux, pour ne pas perturber leur modèle économique. C'est aussi une manière de pouvoir diffuser le projet rapidement. Et donc, on a sollicité les citoyens et les citoyennes sur le financement participatif. Et maintenant, ce qu'on aimerait, c'est aussi mobiliser les entreprises toulousaines au niveau du mécénat, les collectivités, pour nous aider à amorcer le projet et à atteindre ce seuil de rentabilité, donc à financer en fait les salaires des gens qui vont développer le projet sur ces premiers mois, ces premières années, pour qu'il arrive justement à ce seuil de rentabilité et ensuite puisse être pérenne.
Tout à fait. Comment vous organisez sur un plan logistique pour la récupération des boîtes?
Alors là, pour le moment, c'est moi qui m'en occupe avec donc Simon, qui fait partie de l'association. Il y a d'autres personnes, hein, comme Céline, qui viennent aider de temps en temps. On a des contacts, justement, des gens qui veulent nous aider, donc des bénévoles qui nous ont contactés pour nous dire s'il faut faire du vélo, je peux vous aider. Donc là, on est en train d'organiser ça.
Parce que vous ramassez les boîtes
en vélo, bien sûr.
D'ailleurs, ça répond aussi à la question de tout à l'heure. Là, c'est un des problèmes de la consigne, c'est le transport. Parce que, bon, on consomme beaucoup de carbone, en fait, avec les camions. Etc. Alors nous, une fois qu'ils sont arrivés sur Toulouse, les boîtes, on fait tout en vélo. Donc on a un vélo cargo là qui nous permet de stocker jusqu'à 100 kilos de boîtes dessus. Donc c'est beaucoup. Voilà, pour vous donner une idée, là pour l'instant, sur le test, on est plutôt autour de 20-30 kilos à chaque fois qu'on fait une tournée. Et donc bah, tout simplement, on met toutes les boîtes qui sont stockées dans des caisses en plastique sur le vélo et on fait notre tournée, on passe voir chaque restaurant, on leur dépose des boîtes propres, on récupère les boîtes sales qu'ils ont récupérées et on ramène tout ça chez nous et ensuite on lave. Et on stocke.
Denis.
Une petite provocation, simplement. Il m'a semblé voir sur le site que les boîtes en verre avaient un couvercle en plastique. C'est vrai ou pas?
Et oui, malheureusement, elles ont un couvercle en plastique. C'est une question qui revient souvent et c'est intéressant que vous me la posiez. En fait, on a beaucoup réfléchi sur l'objet, sur la boîte, avant de lancer en fait, l'expérimentation. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en fait, pour répondre aux besoins qu'on a identifiés chez les restaurants, notamment toulousains qu'on a interrogés, il n'y a pas d'autre solution que ce couvercle en plastique. Il est réutilisable, donc c'est un couvercle qui ne finit pas la poubelle, hein, bien entendu. Bon, on nous a parlé des bocaux, par exemple, en verre, mais les bocaux, en fait, ont une forme qui ne convient pas du tout à tous les restaurants et ne sont pas empilables, prennent beaucoup de place à laver, donc c'est pas possible. On nous a parlé des boîtes en inox. Alors, les boîtes en inox, on les a envisagées, bien entendu, mais en fait, elles ne sont pas transparentes, donc ça ne correspond pas forcément à tous les... Bah, y a beaucoup de restaurants qui veulent qu'on puisse voir à travers leur, leur emballage, ce qui est normal. Et bon, après, l'inox pose la question aussi de l'extraction des matériaux. On ne sait pas trop dans quelles conditions l'inox, enfin tout ce qui contribue à fabriquer l'inox est extrait, etc. etc. Donc il n'y a pas vraiment de solution miracle, hein, ça c'est sûr, on est d'accord là-dessus. Pour l'instant, nous, ce qu'on propose là pendant notre test, donc notre fameuse boîte Duralex avec le couvercle en plastique réutilisable dessus, c'est à notre sens le meilleur compromis actuel. On est en train de le tester aussi avec l'expérimentation au niveau de la durabilité de ce couvercle, etc. Donc on tirera les conclusions, on va dire, de ça. Mais jusqu'ici, ça tient très bien, c'est durable sur le premier lavage. Et voilà, on est déjà en train de réfléchir à comment on peut remplacer ce couvercle, parce que nous, on aimerait bien s'en séparer, ouais, c'est sûr. Ouais,
comme image, c'est...
Il y a une phase de test jusqu'en juillet. Si l'opération est concluante, vous espérez aussi vous développer dans toute la France ?
Alors, pour l'instant, on réfléchit vraiment à solidifier le projet sur la métropole toulousaine. Hein,
Ce serait le pilote, en fait.
Nous, en tout cas, on est focalisé là-dessus. Ouais. Après, voilà, on commence à avoir des demandes qui arrivent. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette problématique et qui veulent savoir si dans leur ville, ce serait possible de développer la même chose. Je pense que nous, c'est important qu'on solidifie notre modèle sur Toulouse auparavant. Et très vite, c'est sûr que si on peut... proposer quelque chose de solide pour SME, on ira sûrement vers ça, parce que ça nous permettra d'augmenter notre impact environnemental et notre impact social. On parlait tout à l'heure du questionnement, etc. Si cette question, on peut la déclencher dans toutes les grandes villes de France, bien entendu que c'est intéressant pour nous. C'est un peu trop tôt encore pour vraiment savoir comment ça va se passer, mais bon, on en reparlera d'ici quelques semaines.
Il vous faut un appui politique, des politiques au sens large, hein?
Bah, à mon sens, c'est crucial. C'est-à-dire que on parle un peu de la transition écologique en général. Il faut que ça vienne des citoyens et des citoyennes, mais il faut bien sûr que ça vienne aussi des politiques, sinon ça ne peut pas marcher.
Une dernière question, Denis.
D'après ce que j'ai compris, donc Éthique Emballage a une vocation à aller au-delà de la boîte, et donc vous avez d'autres projets en tête, vous avez envie de faire des choses, vous avez des ambitions?
Ouais, on a d'autres projets, donc, mais là c'est vraiment des projets, mais voilà, même dans le domaine de l'alimentation, on a toutes les restaurations collectives qui sont aussi génératrices d'emballages jetables, de déchets jetables. De déchets venant d'emballage jetable, pardon. Donc voilà, il y a plein de choses à faire dans ces secteurs-là. À Toulouse, on a le catering aéronautique qui aussi génère énormément de déchets plastiques. Donc il y a plein de secteurs comme ça sur lesquels voilà, c'est intéressant d'aller réfléchir à comment on peut supprimer le déchet via la consigne.
Merci à vous. On vous trouve facilement sur le net?
Oui, alors comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le site internet, c'est www.emboîteleplat.com. toutattaché.fr. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux. Voilà, on nous trouve assez facilement, ou en tapant Éthique Emballage également, vous nous trouverez sans problème.
Merci à vous, Jonathan. Merci, Denis, pour votre accompagnement pendant cette émission Le Goût d'Entreprendre. N'hésitez pas à nous écrire. Continuez à nous écrire entreprendre@radioprésence.com.
Le Goût d'Entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des Entreprises et des Professionnels de Midi-Pyrénées.